Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Et c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Médien. Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, eh bien, nous reviendrons sur le dernier roman noir de Makodou Atto Lodé, un jeune Sénégalais qui fait son petit bonhomme de chemin dans le genre roman noir. Il faut dire qu'il puise son inspiration dans ses nombreuses lectures et son lien personnel avec le Sénégal. Et on reviendra sur sa dernière œuvre, Étincelle rebelle. Sinon, nous parlerons cinéma avec le tout dernier film de Jilali Farhati, La guerre des six mois. La guerre des six mois, donc une histoire d'amour, toujours fidèle à lui-même. Jilali Farhati parle à travers des silences, ces silences si chers à son cœur, et nous en parlerons dans quelques instants. Mais avant toute chose, eh bien, nous parlons cinéma avec Lemina, film marocain qui a fait le buzz lors de la dernière croisette. Lemina, un documentaire fiction. Si on devait l'étiqueter, Lemina reconstitue le travail actuel dans les puits en utilisant un dispositif de décor conçu, notamment en collaboration avec les habitants de la ville. Lemina, donc un film signé Randa Maroufi et qui revient sur ce groupe ouvrier qui se met en mouvement dans le contexte actuel et social et politique. Et pour nous en parler, qui de mieux que Rim Mjedi. Elle est coproductrice mais également cinéaste. On l'écoute.
Randa Maroufi, la réalisatrice, qui est aussi une artiste plasticienne marocaine, franco-marocaine, qui a fait ses études entre le Maroc et la France. Elle était invitée dans un festival à Oujda et à travers un ami, il lui a fait découvrir sa ville Jrada, la ville minière, avec toute son histoire. Et dès qu'elle est partie là-bas, elle a vu l'architecture, les mines désaffectées, mais elle a aussi rencontré Mourad, un jeune mineur qui travaillait toujours à la mine. Et à travers la rencontre avec Mourad et sa famille, Randa a voulu faire ce film. Le désir pour faire ce film est né. Et depuis 2016, elle a régulièrement visité Jrada, passé du temps avec Mourad, avec la famille de Mourad, avec les vieux mineurs, les jeunes mineurs, pour construire petit à petit ce récit qui porte les voix des habitants de Jrada.
Un récit donc qui porte ces voix, donc au pluriel, mais cette voix finalement unique que la réalisatrice, que j'imagine vous aussi, vous partagez avec ces mineurs. En fait, vous les faites un peu sortir de terre et vous les mettez en lumière. Et comment s'est passé le tournage? Parce que voilà, je pense que ça a dû être... Voilà, on est dans le documentaire, donc c'est un style très particulier où ce besoin de vérité, d'être au plus juste et de ne pas bafouer tout simplement la vie et la vérité de tout un chacun. Comment vous l'avez vécu ?
Je parlerai d'abord du processus un peu du film et puis je dirai comment personnellement je l'ai vécu en tant que coproductrice. Donc l'approche de Randa au départ était documentaire. Elle a passé beaucoup de temps avec les mineurs, les vieux et les jeunes. Elle a recueilli leurs témoignages et puis son regard de singulier, comme vous avez dit, de cinéaste, mais surtout et aussi de plasticienne, parce qu'elle vient des beaux-arts, elle vient des arts plastiques et visuels. Et du coup, son cinéma s'ouvre et expérimente beaucoup avec les images. Donc le tournage s'est pas passé de manière traditionnelle, dans le sens où on n'a pas filmé dans des mines, on n'a pas filmé dans des décors naturels. On était à Jrada, bien évidemment, avec les habitants et les mineurs, mais Randa a préféré reconstruire des décors et rejouer ce qu'on appelle la reconstitution avec les vrais personnages dans des décors, pour mieux sonder à la fois la terre, le ventre de ces mines, mais aussi les âmes de ces personnages.
Et justement, pourquoi ce choix de ne pas filmer dans des décors naturels? Est-ce que c'était pour les extirper véritablement, les avoir hors de ce lieu, peut-être qu'ils habitaient trop. C'était quoi l'intention derrière? Je trouve ça très intéressant d'ailleurs ce que vous dites.
Je pense que après là, Ramda est mon amie et aussi ma collaboratrice, donc je connais le projet. Mais en fait, déjà, ses films d'avant, spécialement Bab Sebta, qui devait se passer à Bab Sebta, qu'elle a encore une fois préféré en reconstruire une partie, le faire dans un décor. Je pense que ça fait partie de sa démarche, c'est-à-dire s'inspirer du réel sans le copier. Parce que la question de comment on filme le réel, elle se pose plastiquement et cinématographiquement, et c'est pas forcément en filmant ce qui est qu'on arrive à une vérité plus profonde. Des fois, c'est en utilisant l'artifice qu'on arrive à sonder une vérité ou des vérités, et ça faisait partie d'un parcours que Randa a construit au fil des ans. Qui reflète aussi encore une fois sa formation académique, mais aussi ses inspirations visuelles et artistiques.
Et vous, en tant que coproductrice, mais également en tant qu'amie de Randa, avec cette fibre artistique également très présente, comment avez-vous vécu la naissance de ce projet jusqu'à bien cette consécration à Cannes?
Eh bien, j'étais toujours... Bon, je fais aussi des films, je réalise, et j'étais toujours fascinée par l'histoire, les histoires, avec un grand H, de nos travailleurs, la lutte de nos travailleurs. Et ce que j'ai adoré dans ce projet, c'est que ça porte justement cette histoire qu'on voit très rarement à l'écran au Maroc, que ce soit dans des films de fiction ou documentaires. On n'a pas l'impression que le Maroc est un grand pays de travailleurs, alors que c'est le cas. Nos travailleurs ont eu une histoire très importante, que ce soit sous le protectorat ou pendant l'indépendance, et ils ont vécu des choses qu'on doit raconter. Et justement, des fois, ces histoires, elles sont des fois marginalisées, et pas racontées. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, je voulais en faire partie parce que ça porte une mémoire qui est encore vivante, qui n'est pas encore enterrée, mais qu'on a des fois, qu'on regardait pas assez. Du coup, ça rend visible ce qui n'est pas très visible, et c'est l'apanage justement du vrai cinéma.
Et donc ce prix à Cannes dernièrement, Semaine de la Critique. Alors on voudrait revenir sur ce superbe moment, puisque voilà, vous avez porté très haut le drapeau marocain, et c'est toujours un plaisir et un honneur que de voir des jeunes femmes, en l'occurrence, faire briller le Maroc à l'international. Déjà, félicitations. Et comment vous avez vécu ce moment? Et voilà la réaction du public, un public donc qui n'est pas forcément marocain, donc voilà, Cannes, il y a un peu de tout. Voilà, quelles ont été les impressions? Parce que voilà, c'est, mine de rien, c'est au Maroc, c'est une thématique véritablement universelle. Voilà, comment vous l'avez vécu, justement?
On était très heureuses. Bon, l'équipe, on était peut-être l'une des équipes les plus conséquentes pendant la Semaine de la Critique, parce que ce sont des courts-métrages et généralement toute l'équipe n'est pas là, mais Randa a veillé à ce qu'on soit au max tous, parce que c'est aussi un travail collectif, dans le sens où c'est Randa qui a fédéré quelque part les compétences et les talents de ses amis autour, et il voulait mettre en lumière, justement, on voulait mettre en lumière cet esprit collectif qui a régné pendant le film, que ça soit à l'écriture de la partie documentaire, des témoignages entre Randa et les mineurs, ou en équipe de production et dans le tournage. Et voilà, on était très heureux. On a eu de très, très super bons retours des équipes étrangères qui étaient avec nous en compétition. Tout le monde disait, je pense que c'est le cas, que le film vraiment était très très différent des autres, dans le sens où ça se distinguait de manière naturelle, que ça soit par la rigueur formelle, par le dispositif de mise en scène, ou par ces hommes magnifiques que Randa a réussi à magnifier à travers ce récit cinématographique.
En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Rim. Vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir pour parler de ce très beau film, donc de ce très beau, belle œuvre cinématographique, Elmina. Merci encore, Rim.
Merci à vous et j'espère que ça va être le précurseur pour d'autres films marocains, de jeunes faits avec un esprit collectif pour briller encore à l'international et mieux représenter le Maroc.
Merci infiniment, Rim. À très bientôt.
Et après avoir parlé cinéma, on se fait une petite pause musique et on se retrouve dans quelques petites minutes. Soso, bien sûr, énorme morceau que l'on aime vous programmer dans l'Afrique en culture. Et tout de suite, eh bien, nous parlons cinéma encore une fois avec le tout dernier film de Jilali Farhati, La guerre des six mois, actuellement en salle dans tout le Maroc, dans les mégaramas du Maroc. Et c'est vrai qu'on ne peut t'évoquer Jilali Farhati sans se rappeler eh bien, le nom de son film fétiche, Poupée de Roseau, sorti en 82, réalisé d'ailleurs dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs et qui fut de bon augure, il faut bien l'avouer, pour sa carrière. Car avec ce long métrage réalisé après Brèche dans le mur, il s'est vu attribuer le Grand Prix du Festival de Valence, le prix de la mise en scène et le prix de la meilleure interprétation féminine au premier Festival National du Film au Maroc. Viennent ensuite ses autres œuvres cinématographiques qui ont consolidé sa carrière et lui ont donné un sens, notamment avec La plage des enfants perdus, sélectionné donc lors de la sélection officielle du Festival de Venise en 91. Encore Chevaux de fortune et très et en 2025, il revient sur le devant de la scène avec La guerre des six mois.
Son père est très contrarié parce qu'il est au courant de tout. Ce n'est pas juste. Je l'aime, maman, je l'aime.
Ça finira par un internat, je te jure.
شحال هادي وانا كنحلم تكون عندي بنت. راه هو القدر جاب لي وحده. قدر فوتر فيس وي سكو فولي دير فرضا
معايا. خليتها تشوف كل شيء، خليتها تعرف كل شيء. عادي بس تعرف شكون هي.
La guerre des six mois, le dernier film de Jilali Farhati, toujours fidèle à lui-même, il parle à travers des silences et silences si chers à son cœur, véritable signature du cinéaste dont la grammaire cinématographique se fait avant tout à travers l'image, à travers les non-dits et le hors-champ, qui est un scénario à part entière chez Jilali Farhati, un film dans le film. Et c'est le cas dans La guerre des six mois. Rebecca Amin, deux confessions différentes, elle est juive, il est musulman, ils sont dans le même lycée, fous amoureux l'un de l'autre, naîtra de cette union Mimi, enfant illégitime né l'année de leur bac. Les années passent, Mimi prématurément développe une maladie des reins. Elle doit trouver un donneur. Rebecca et Amine s'aiment toujours loin l'un de l'autre. Leur amour en hors-champ hante tout le film. On suit à coup de réminiscence toute cette histoire, leur histoire, l'histoire d'un amour interdit qui ne veut pas se taire et qui hurle. Je rêve de réaliser un film complètement muet. Cette réflexion de Jilali Farhati résume en fait toute une conception du 7e art, une manière d'aborder le récit cinématographique avec ce besoin viscéral de le sonder seulement à travers la rhétorique de l'image. Le cinéma comme poésie, le cinéma comme hymne à la vie et à l'amour et surtout la liberté, la guerre des six mois. Dernier film donc de Jilali Farhati, actuellement en salle dans tous les mégaramas du Maroc. Et avant de nous quitter, impossible de ne pas parler littérature avec ce talent brut, Makodou Atolodé. Il est venu en France tout d'abord pour ses études d'ingénieur. Il travaille comme développeur d'applications web, mais la littérature reprend vite le dessus. Il puise son inspiration dans ses nombreuses lectures et son lien très intime avec le Sénégal. En est très notamment Étincelle rebelle, qui se déroule en grande partie dans la région de la Casamance et qui est d'ailleurs son premier roman au Sénégal. L'inspecteur Gabriel Latir Faye vient de réussir, après 2 ans d'investigation, à coincer l'un des plus gros bonnets de drogue du pays. Mais sitôt arrêté, celui-ci est relâché pour s'être rebellé contre sa hiérarchie. Latir est muté en Casamance, dans une zone sous haute tension où s'affrontent 3 groupes d'ennemis. Le jeune homme, qui ne connaît rien de son pays au-delà de la capitale, rencontre Hagen, une journaliste locale qui va finalement l'aider à comprendre les enjeux de ce territoire et l'accompagner dans sa croisade contre la corruption. Au cœur de la tourmente, l'armée, les sécessionnistes, un clan secret baptisé les chasseurs et une curieuse panthère. On écoute tout de suite.
D'abord, l'univers décrit par l'auteur, à la fois urbain et rural, où l'on voyage en 4x4 mais aussi en pirogue. Les romans qui se déroulent en Afrique subsaharienne sont peu nombreux. Nous voici au Sénégal avec ses tribus, ses richesses convoitées et sa corruption généralisée. Et l'on découvre la Casamance dans laquelle Makodou Atolodé nous immerge tout au long de ses 350 pages. La Casamance, aux prises avec les brigands que sont les coupeurs de tête, mais aussi les chasseurs indépendantistes qui les combattent. Enfin, les mafieux qui trafiquent avec la bénédiction des militaires corrompus. Le personnage de Latir est particulièrement réussi. Un jeune flic honnête et idéaliste. Il se démène, se débat, quitte à mettre à mal les traditions encore très ancrées dans ce pays, quitte à en prendre plein la gueule, quitte à s'éloigner de sa famille.
Étincelle rebelle, premier roman de Makodou Atolodé et qui donne eh bien, une idée de ce que peut être le roman noir africain avec cette signature 100% africaine et on aime beaucoup. Et d'ailleurs, on arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous. On poursuit eh bien, en musique et surtout en clôture. N'oubliez pas que l'Afrique en culture, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast. Très bonne écoute à tous et à très très bientôt, toujours sur Média. I wanna give you some.
fit do for my woman. Do me nice, show me pepe. Do me fast, she do me gentle. My island in, she keep it dream. Oh, she come around, she don't wanna leave. She my lover, I'm my bestie. Ciao.